For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile, and the ones who get in early so everyone can go home on time, there's Grainger, offering professional-grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
Bonjour à tous et bienvenue sur cet épisode ou ce segment spécial du Rendez-vous Tech. Je ne sais pas encore très bien comment on va le mettre en place, mais vous le savez déjà puisque vous êtes en train d'écouter. Hein. Nous sommes à la conférence Le Web de Loïc Lemeur, comme on vous en avait déjà parlé à plusieurs reprises. Et quand je dis nous, c'est que je suis avec mon compère habituel, Jeff. Comment vas-tu aujourd'hui, Jeff ?
Bonjour à tous. Eh bien, écoute, je vais très bien, Patrick. Merci de me le demander. J'ai fini mon panel tout à l'heure, donc là je suis un peu dans un mode de relaxation avant de repartir en tant que juge de la compétition start-up cet après-midi. Et là on est assis sur des lits en fait assez confortables dans la partie speakers de la conférence, qui est extrêmement impressionnante. Je suis très fier en fait de ce que Loïc a fait, parce que ça atteint des proportions qui sont assez énormes.
C'est vrai qu'on en avait déjà parlé un petit peu, mais peut-être que tu peux nous réexpliquer très rapidement d'où vient le web et puis qu'est-ce que c'est aujourd'hui, qu'est-ce que c'est devenu.
Oui, bien sûr. Donc le web, ça a commencé il y a 6 ans, ça s'appelait les blogs à l'époque. C'était en fait une idée de réunir les plus gros blogueurs mondiaux, en gros les Européens, les Américains. Et donc on avait fait ça en décembre 2004. Ça se passait à Paris, ça se passait au Sénat. Donc ça c'était super rigolo parce que il y avait une queue monstrueuse parce qu'il fallait passer au travers des contrôles des flics, etc. Donc bon, c'était rigolo. Et on avait en fait créé cette plateforme de discussion, de participation sur une journée, et ça avait été vraiment très bien suivi. Et en fait l'année suivante on avait recommencé, ça s'appelait les blocs 2, on avait 450 Pékin. Et puis l'année d'après, moi j'avais suggéré à Loïc en fait d'élargir la plateforme, et c'est là que l'idée du web est venue. Et donc c'est la quatrième édition du web. Aujourd'hui c'est 2300 personnes, c'est quelque chose comme 50 pays représentés, c'est streamé par Ustream, donc notre partenaire aussi du Rendez-vous Tech, sauf que là il y a 15 000 Pékin qui regardent en temps réel, et on a quelque chose comme 50 intervenants qui représentent les plus grosses boîtes du monde du tech, que ce soit Facebook, que ce soit Twitter, que ce soit MySpace, le CEO, Mike Jones, un de mes très bons copains, est là aujourd'hui sur le stage. Et ce qui est vraiment impressionnant, c'est que pour une plateforme technique vraiment complexe, parce que monter un événement comme ça, ça s'est passé super bien depuis ce matin. Le Wi-Fi marche de folie, tout le monde a eu à manger, ce qui était en fait des problèmes de logistique il y a un an où tout le monde n'avait pas eu à bouffer. Et là, tout le monde est super content. Donc, c'était vraiment une très très bonne première matinée.
C'est vrai que moi j'avais entendu des histoires un petit peu surprenantes l'année dernière, parce qu'il y avait des problèmes de chauffage, de wifi, tout ça. D'ailleurs, Loïc...
C'était chauffage, wifi et bouffe.
Donc ça, c'était effectivement, il y avait eu des petits accros, on va dire.
Les besoins principaux.
Et Loïc en a plaisanté un petit peu pendant sa présentation. Mais c'est vrai que là, ça se passe super bien. Et c'est un truc qui est quand même pas évident à organiser, parce que c'est parti d'une petite réunion de blogueurs. Et là, c'est devenu un vrai tournant pour une rencontre entre les développeurs et les fournisseurs de services. Alors, on a vu MySpace, Facebook, Twitter qui sont venus faire des présentations, qui ont fait des annonces assez intéressantes. On va pas forcément forcément, c'est un petit peu technique, donc on va pas forcément ennuyer les auditeurs avec ça. Mais il y avait, c'est un endroit aujourd'hui qui, en Europe en tout cas, est assez incontournable pour la sphère technologique et la sphère Internet.
Tout à fait. Mike Harrington de TechCrunch l'a mentionné en fait sur le stage à un moment. Et Mike est pas du genre à passer des fleurs à tout le monde. Hein. C'est pas son style. Mais en fait, il a reconnu.
Je t'interromps une seconde parce que je confirme que Mike Harrington, on en parle de temps en temps de TechCrunch dans l'émission, c'est pas un tendre du tout. Hein. D'ailleurs, dans la présentation qu'il a fait, il a envoyé des petites piques qui étaient limite à la limite de l'arrogance. Et moi, je me suis dit, oula, il y en a un qui va s'énerver un petit peu, mais non, ça s'est bien passé. Mais oui, donc il disait.
Non, parce que c'est Mike, et donc la tolérance des gens envers Mike, par définition, est beaucoup plus grande parce que de toute façon, ils n'ont pas le choix. Et donc, ce que Mike disait, c'était que avec 2300 personnes, avec 15 000 personnes derrière le flux Ustream, le web était devenu un événement incontournable. Et même dans le monde de la tech, c'est aujourd'hui la plus grosse conférence. C'est-à-dire que les plus grosses conférences aux États-Unis ne sont pas aussi grosses que le web. Je pense que c'est ça qui est important de mentionner. Même TechCrunch 50, donc la conférence de Mike Harrington, qui est un gros événement pour nous, pour notre écosystème dans la vallée, ça n'est que 1800 personnes. Et donc, je pense que c'est vraiment une très très belle réussite pour Loïc et Géraldine, puisqu'en fait, c'est Loïc met en place le programme, et Géraldine, son épouse, met en place toute la logistique de la boîte et de la conférence. Et en gros, c'est un an de préparation pour elle. C'est vraiment une très très belle réussite. Et aujourd'hui, le fait d'avoir MySpace, Facebook, Twitter avec nous, on a eu aussi Jack Dorsey, qui est le mec, en fait, le fondateur de Twitter, celui qui a eu l'idée du produit, a fait la première keynote avec Loïc. Donc il a aussi parlé de sa nouvelle startup qui s'appelle Square, qui est un système de paiement. Je veux dire, ce sont des acteurs majeurs du marché US qui se déplacent aujourd'hui en France pour cet événement. Et je pense que pour toutes les startups françaises, c'est une occasion unique de toucher en fait tous ces acteurs internationaux. Il y a énormément d'investisseurs. Je veux dire, tu regardes ne serait-ce qu'autour de nous, je peux pointer 4 ou 5 de mes copains VC qui sont assis ne serait-ce que ici à côté de nous, et donc c'est vraiment une grosse rencontre de l'écosystème.
Alors, est-ce que tu peux nous dire, j'aimerais qu'on parle, on revienne sur la start-up de Dorsey, qui est super intéressante, mais avant ça, en gros, pour les gens qui ne comprennent pas forcément à quoi servent ce genre de conférences, qui y vient et pourquoi, en fait, que ce soit du côté des gens qui présentent ou du côté des gens qui viennent en tant que visiteurs sur ce type de d'événement.
Tu vas avoir, je dirais, 4 grandes composantes dans les grandes conférences comme le web. Tu vas avoir ma paroisse, donc les investisseurs. Donc on vient toujours, on envoie des gens qui travaillent pour nous si c'est des petites conférences, et on se déplace nous si c'est des grosses conférences, parce que c'est important pour nous d'être là, parce que c'est une occasion unique de rencontrer des entrepreneurs, de rencontrer des boîtes établies. Donc il y a énormément de grosses boîtes ici, que ce soit Yahoo, que ce soit Google, que ce soit Orange, Microsoft a quasiment une partie entière de l'aile de démonstration pour présenter son programme Bispark. Et donc c'est une occasion excellente pour nous d'aller voir ces gens-là et de discuter 5-10 minutes en prenant un café, etc. etc. Tu vas avoir donc les grosses boîtes, je les mentionne. Donc pour une start-up, c'est une occasion de rencontrer un potentiel partenaire, un potentiel acquéreur aussi. Il y a des boîtes qui ont rencontré comme ça leur acquéreur dans ce genre de conférence. Tu vas avoir les médias. Tu as 360 journalistes accrédités qui sont sur le web. Et donc, pour une start-up qui a toujours du mal à essayer de capturer l'attention d'un TechCrunch ou d'un des gros blogs, ou même ZDNet ou CBS, ou enfin tous les médias majeurs sont ici. Et donc c'est une occasion, en fait, de même chose, de rencontrer les journalistes, et puis de dire voilà ce que je fais, je te le montre vite fait, ou peut-être qu'on peut se rencontrer de façon un peu plus longue plus tard. Donc c'est une excellente occasion de prise de contact. Et ensuite, c'est les startups. Et les startups, c'est une occasion de rencontrer d'autres boîtes qui sont dans ton secteur, de créer des relations, des discussions, et puis de voir, c'est là où beaucoup d'alliances en fait se créent, parce que c'est beaucoup plus facile pour deux CEO qui sont sur la conférence de s'asseoir, de discuter, et puis de voir où est-ce qu'ils peuvent aller, plutôt que de passer en fait par les gens qui font du biz dev, tu vois, en dehors de ce contexte. Et donc, pour chacun des pour chacun des intervenants dans le domaine, c'est une grande valeur que d'être là pour deux jours, parce que tu as un concentré d'activité qui est énorme. Et c'est pour ça que moi je suis là, c'est que bon déjà je viens parce que j'adore Loïc et parce que ça fait 6 ans que je suis dans le programme et j'essaie de sortir du programme, mais à chaque fois il me rajoute. Et donc ce matin j'étais sur le panel des applications mobiles qui je pense s'est pas mal passé, c'était super intéressant. Pour moi, c'est vraiment une super opportunité que de faire un point sur ce qui se passe en Europe, parce que je ne fais rien en Europe. Mes deux seules activités en Europe, c'est le rendez-vous tech et c'est le web. Et donc, là, en ce moment, je fais les deux en même temps.
Magnifique. Et c'est vrai que, comme tu le décris comme ça, ça fait presque une sorte de speed dating du monde du tech, quoi. C'est une occasion de se rencontrer là où on n'en a pas forcément dans le reste de l'année. C'est juste de le décrire comme ça, une sorte de pas forcément de speed dating, mais de soirée pour rencontrer des gens, quoi. On s'acoquine, on se fait des sourires, on se fait des clins d'œil, et puis on se revoit peut-être après.
C'est du speed networking ou speed dating si tu veux, mais c'est vrai que c'est comme ça que tu vas lier certaines, tu vas lier des connaissances. C'est un exemple tout bête. Mike Jones, qui est maintenant le CEO de MySpace. Je l'ai rencontré à une conférence comme ça. Ça s'appelait, c'était en fait la première conférence qui s'appelait Blog On. Donc c'était la conférence sur les blogs dans la vallée. Je l'ai rencontré en juin 2004. Et en fait, ça a commencé par un dîner de speakers. Tu vois, on a juste fait connaissance. 6 mois plus tard, on avait décidé de travailler ensemble. 1 an et demi plus tard, on vendait sa boîte à AOL pour un paquet de pognon. Et donc, c'est une histoire qui a commencé autour d'une conférence. Et je pense que, pour moi, ce que 9 ans et demi d'investissement m'ont appris, c'est que tu dois vraiment croire à la... comment on dit serendipity en français ?
C'est difficile à traduire, c'est pas la destinée, c'est pas la... serendipity. La manière de laisser les choses se passer, voilà. Les choses vont arriver, quoi.
Carpe diem. Et donc, on croit franchement à la valeur de laisser les choses se passer comme ça. Donc, on est toujours très ouvert à des gens qui viennent. Tu vois, souvent, quand t'es connu, les gens tournent autour de toi 3 fois pour essayer de voir comment ils vont te passer leur carte de visite, etc. Et donc, t'es là, tu te tournes, tu dis bonjour, ça va, et t'as une conversation de 5 minutes. Et si jamais y a quelque chose d'intéressant, tu vas t'asseoir pour une petite demi-heure, ou alors tu dis bon ok, on s'appelle la semaine prochaine, on fait un follow-up. Et donc c'est vrai que
on s'appelle, on se fait une bouffe, quoi. Encore une fois, c'est un peu
j'ai essayé de maigrir, donc j'essaie de moins de faire de bouffe. Mais non, c'est ça, on se fait des meetings. Et c'est, en fait, c'est une approche très très américaine Je trouve que les Français ou les Européens sont un peu plus formels, ou en tout cas l'étaient quand j'étais encore ici. Et c'est une approche qui permet de gagner énormément de temps et de laisser en fait les choses se faire. Tu vois, l'exemple que j'ai donné avec Mike Jones, c'est vraiment un exemple criant.
D'accord. Revenons sur le truc qu'a présenté Jack Dorsey, ouais. Qu'on connaissait déjà, qui avait déjà été présenté il y a quelques semaines, je crois, qui est un système assez intéressant. Donc, comme on le disait, Jack Dorsey, c'est la personne qui a, j'aime pas ce mot, mais qui a inventé le concept de Twitter,
Il a inventé Twitter. Il a inventé Twitter. Ça, c'est lui, c'est son idée, c'est ses sketchs. Et c'est pour ça en fait qu'il a aujourd'hui cette place un peu particulière chez Twitter, puisqu'il a quitté Twitter, il ne travaille plus chez Twitter, il a sa propre boîte maintenant, mais il est encore chairman, et en fait tout le monde le crédite comme le mec qui a inventé le concept en ayant cette espèce de vision de gens qui publieraient ces streams d'activité et je sais pas si t'as entendu Mac Harrington qui a tourné en dérision sa propre analyse de Twitter où il disait c'est des conneries, c'est n'importe quoi, ce truc ne va jamais marcher.
Oui, il disait ça il y a 2 ans quand on lui a présenté le projet pour la première fois. C'est vrai qu'il disait ça ne marchera jamais. Il en plaisantait aujourd'hui, ouais.
Et donc en tant qu'inventeur de Twitter, c'est un mec qui a des visions. Et donc sa vision pour Square, sa nouvelle boîte, c'est comment je peux créer un système de paiement qui soit tellement simple à utiliser que n'importe qui soit dans la mesure de capturer des paiements, que ce soit le vendeur de limonade, que ce soit le sales rep qui vend quelque chose dans l'App Store. Quel type d'infrastructure, de plateforme je peux développer pour que ce soit super, super simple et super utilisable. Et donc, sa plateforme de base aujourd'hui, c'est une application sur l'iPhone, mais a priori, il va le développer sur d'autres téléphones. Et il a une espèce de petit dongle qui va se connecter au port casque audio. Alors, tout le monde se disait, il va se connecter au port d'extension, ce qui aurait été la façon logique. Mais en fait, son idée qui est vraiment smart, je trouve, c'est de dire l'extension, la connexion headset, elle existe sur tous les téléphones, toutes les plateformes, tous les ordinateurs. Et donc, je vais créer un dongle qui va se connecter dessus, qui va permettre de faire passer une carte bleue pour faire un wiper, quoi, enfin, comme les lecteurs de carte bleue. Et de capturer donc l'information qui est sur la bande magnétique, transformer ça en signal son et l'envoyer ça à une application qui va le reconnaître. Et donc ça tourne en fait un iPhone dans un lecteur de carte bleue que tu peux utiliser partout, par définition, de façon super simple et franchement c'est une idée intéressante.
Mais alors c'est vrai que quand on dit ça, on a peut-être tendance à s'imaginer donc c'est quelqu'un dans un magasin qui va facilement s'en servir comme lecteur de carte bleue machin. Et quand on voit la chose qui est montrée devant ses yeux, on se rend compte que c'est tellement simple que c'est vraiment à la portée de n'importe qui, quoi. Ce qu'on peut imaginer, par exemple, c'est pour résumer la chose, la manière dont ça fonctionne. Vous avez une application que vous téléchargez sur l'App Store très facilement. Vous avez ce petit accessoire supplémentaire qui se branche sur la prise casque et qui, dont il disait qu'elle est gratuite. Donc il peut envoyer ce petit accessoire gratuitement à n'importe lequel de ses clients en fait. Donc vous branchez ça et à partir de là vous avez une application dans laquelle vous allez rentrer un montant. Vous rentrez le montant, vous passez la carte bleue dans l'accessoire. Là, ça reconnaît les informations de la carte bleue. Et vous allez pouvoir débiter la carte bleue aussi simplement que ça. Donc après, il y a une sorte de signature qu'on peut faire avec le doigt. Il y a aussi la possibilité d'avoir une photo de la personne à qui appartient la carte bleue pour vérifier que c'est bien elle, pour éviter les fraudes. Et vous allez accepter le paiement. Et à partir de là, ça passe par la moulinette de ses serveurs à lui. Et vous êtes crédité sur votre compte de ce montant. Donc on peut tout à fait imaginer quelqu'un, par exemple, je dis n'importe quoi, mais quelqu'un qui fasse des qui soit un babysitter qui dit moi je facture comme ça avec mon accessoire sur iPhone et c'est directement crédité sur mon compte. Donc on peut imaginer babysitter, mais aussi n'importe quoi d'autre, quelqu'un qui vient faire des travaux chez vous, enfin vraiment ça marche pour tout. Et là où ça m'a vraiment frappé, c'est que ça met à n'importe qui la possibilité de débiter une carte bleue. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que vous, demain, vous pouvez imaginer un système dans lequel vous avez besoin de débiter de l'argent, et ben vous pourrez débiter une carte bleue. C'est un outil véritablement intéressant, et je suis sûr que c'est le genre d'outil, pour moi, tu vas me dire si je me trompe, mais c'est le genre d'outil qui est d'une simplicité telle que il appelle des utilisations qui n'existaient pas forcément avant.
Tout à fait. Ça appelle des utilisations. Le problème, c'est qu'en même temps que tu ouvres toutes ces portes, ils ont un méga challenge sur la fraude. Parce que clairement, quand tu utilises des plateformes aussi simples et aussi disponibles que le bout de dongle et un iPhone, je sais pas ce qu'ils vont faire pour que l'appli soit pas, que tu puisses pas hacker l'appli, pas hacker le dongle, etc. Mais je vois un énorme challenge pour eux. Et donc, quand Jack a mentionné qu'ils allaient sortir en bêta dans 3 mois, il faut savoir que dans la vallée, on essaie vraiment de sortir les choses le plus rapidement possible, etc. Donc, je suis certain que la fraude, c'est leur problème numéro un aujourd'hui. Mais le jour où ça sortira, c'est vrai que les implications d'avoir en fait la possibilité de capturer les paiements n'importe où. C'est quelque chose qui va vraiment être intéressant.
Alors, si on veut se faire un petit peu l'avocat du diable et que je me dis finalement c'est un petit peu la même chose que de récupérer un billet de 20 € ou de récupérer un chèque, ou pourquoi est-ce que ça va être plus intéressant que de récupérer un billet de 20 €?
J'ai jamais d'argent sur moi. Non, mais c'est vrai. Je n'ai jamais d'argent sur moi. C'est surtout aux États-Unis, on fait tout par carte, machin truc, et donc j'ai 5 ou 6 cartes de crédit en permanence, enfin carte de crédit, carte de débit en permanence sur moi, mais j'ai jamais de cash.
Et en plus, c'est un petit peu, c'est vrai qu'on peut se dire, imaginons le système dans le métro dans Paris, si jamais, on peut dire, ouais, bah, la carte Navigo, ça sert à rien, j'ai toujours mes tickets. Bah ouais, mais les tickets, c'est quand même chiant, c'est quand même pas pratique et tout. Et la carte Navigo, tout le monde l'utilise, elle est super pratique. Là, c'est un petit peu le même genre de shift, de transformation, de vision des méthodes de paiement, et je suis sûr que s'ils réussissent, effectivement, il en parlait lui aussi des questions de fraude, s'ils réussissent à suffisamment verrouiller la chose pour que ça ne pose pas de problème lourd de fraude, ça peut exploser, et il y a un business model en plus immédiat, puisque bah il deal avec de l'argent, donc tout de suite l'argent rentre en ligne de compte. Et d'ailleurs il précisait qu'il y avait, c'était quoi, un cent qui était donné pour chaque transaction à un organisme à but caritatif. Ouais. Donc ça c'est bien aussi,
et ça c'est super. Et leur charité par défaut, c'est Charlie Water. Donc, dont l'objectif, c'est de construire des puits en Afrique. Et en fait, une des choses, je vais faire un plug pour Charity Water, parce que c'est une non-profit que je trouve vraiment intéressante. L'idée originale est venue d'un mec qui un jour a dit, bah tiens, plutôt que de récupérer des cadeaux pour mon anniversaire, je vais demander aux gens de mettre un peu d'argent pour qu'on puisse donner cet argent à des missions en Afrique pour construire en fait des puits pour amener de l'eau potable. Et donc il l'a fait, puis ses copains l'ont fait, puis c'est passé sur Internet, et maintenant en fait il y a un site où tu peux aller, où tu peux créer ta propre vidéo, créer ton messaging, et puis envoyer ça à tes copains. Et en fait ma fille qui a eu 9 ans donc la semaine dernière a décidé toute seule comme une grande, et j'en étais très fier comme papa, d'envoyer ça à ses copines et de dire, plutôt que de me ramener un cadeau pour mon anniversaire, j'ai créé un site web et faites une donation à Charity Water pour qu'on puisse construire un puits en Afrique.
Magnifique. Mais écoute, je me demande si je vais pas me laisser inspirer par ta fille et faire un truc comme ça, genre pour le rendez-vous tech pour Noël, plutôt que de demander des pourboires, demander aux gens de, on va réfléchir à un truc comme ça. Genre, pour l'épisode de Noël, on fera quelque chose du genre avec Charity Water. C'est vrai qu'on en avait entendu parler.
Et donc, Charity Water, c'est la charité à qui le one cent arrive par défaut. Et c'est vrai que, in fine, ça représentera beaucoup d'argent quand tu penses. Parce que des paiements, ça se fait sans arrêt. Quoi.
C'est clair. Bon, alors, donc là, c'était le gros morceau avec Jack Dorsey qui était vraiment intéressant. D'autres choses, avant de conclure, d'autres choses à retenir de cette première partie de l'événement dans ton esprit ?
Bah, écoute, pour moi, c'est très technique, mais Ryan Carver, qui est le patron de la plateforme chez Twitter, donc il s'occupe de la partie développeur, a annoncé qu'il mettra à disposition l'ensemble du hose, donc le fire hose, c'est la totalité des tweets. Il les mettra à disposition des développeurs. On verra quelle modalité ils utilisent pour ça, mais c'est une news énorme pour mon industrie, parce que c'est quelque chose que beaucoup de gens essaient d'avoir. Donc pour moi, c'est vraiment le truc que j'ai retenu.
Pour expliquer ce que c'est exactement, c'est vrai que on a hésité à en parler là dans l'émission parce que c'est un petit peu technique, mais en gros, le fire hose, donc la bouche à incendie, c'est le flux complet de l'ensemble des tweets qui arrivent sur Twitter de tous les utilisateurs du monde. Donc je sais plus combien ils sont, 30, 40 millions de tous les utilisateurs du monde. C'est un flux unique qui répertorie tout ça. Et c'est un truc qui est très très difficile d'accès aujourd'hui parce que non seulement c'est une propriété hyper à immense valeur, une très stratégique pour Twitter, mais c'est aussi s'ils l'ouvrent à tout le monde, ils doivent faire face à des contraintes logistique énorme et ça leur pose des gros problèmes techniques. Et jusqu'à maintenant, on en avait parlé, il y a la mise à disposition sur les moteurs de recherche comme Bing et Google de ce Firehose. Donc c'est pour ça qu'on a pu voir les mises à jour de Twitter maintenant dans Bing et dans Google, comme on en avait déjà parlé. Et donc là, ce qu'ils disaient, c'est qu'ils allaient mettre ce flux disponible pour tout le monde. Et alors, on en discutait juste avant d'enregistrer l'émission, ça pose quand même de grosses questions parce que on se doute que Bing et Google paient quand même assez cher pour avoir accès à ces informations. S'ils disent que...
Il n'y a eu aucune communication, mais c'est des millions de dollars. Et aussi bien des millions de dollars en licensing, et c'est aussi, à mon sens, encore plus de millions de dollars en rev share. Donc la partage de revenus.
Ouais. Donc c'est-à-dire que les revenus que Google va générer ou Bing vont générer sur ces informations-là, eh ben ils vont en donner une partie à Twitter. Donc effectivement, c'est pas quelque chose de gratuit du tout. Donc on se posait la question, on se disait si jamais ils mettent à disposition ce flux complet pour tout le monde, comment est-ce que va réagir Google, vont réagir Google et Bing? Est-ce que il va y avoir une modalité un petit peu différente? Est-ce que ça va être payant? Est-ce que ça va être limité? Est-ce que ça va être retardé dans le temps comme tu le disais, Jeff? Ça pose quand même beaucoup de questions. Mais c'est pour Twitter et pour notre petit monde technologique une grosse grosse annonce, ouais, effectivement. Une autre chose à laquelle tu penses?
Après il y avait quelques points qui étaient intéressants, genre la monstruosité de Facebook. En termes de, bon, on sait que c'est 350 millions d'utilisateurs, c'est un écosystème énorme en termes de développement. Donc il y avait Ethan Bird qui est le Gus qui gère ça. Pour moi franchement le truc que j'ai retenu le seul tweet que j'ai fait en disant waouh, genre surprise, ça a été le firehose de Twitter.
D'accord. Petite conclusion, les choses qui nous ont marquées dans les impressions qu'on a sur ce qu'ont dit les différentes personnes. Moi, il y a deux choses qui m'ont marqué. C'est bon, évidemment, c'était le sujet des premiers panels, mais c'était quand même important. C'est l'importance des applications et des plateformes, parce que on parle beaucoup de l'iPhone, mais l'essentiel de ce dont on parle sur l'iPhone, c'est les applications. Et d'ailleurs, le podcast Upload en démontre pour moi l'importance. L'importance que ça a pour moi, en tout cas. Mais c'est pas uniquement l'iPhone. Il y a aussi une effervescence autour de ce concept de plateforme pour Facebook, mais aussi MySpace, Twitter évidemment, d'autres réseaux sociaux un petit peu.
Il y avait juste un point. Mike Harrington a été modérateur sur un panel avec des plateformes et ils étaient sept. Il y avait sept plateformes. Donc c'était Facebook, Ning, SixApart, LinkedIn, MySpace, Twitter, et j'en ai sept. Et donc les seuls qui étaient pas là, c'était Google et c'était Yahoo.
Ce qui est
et Microsoft.
Mais c'est vrai que ça montre un petit peu l'importance que sont en train de prendre ces applications dans le monde du web. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'a plus uniquement des pages web qu'on va aller voir, mais c'est véritablement cette idée de plateforme et donc de possibilité d'évolution et d'applications très différentes qu'on peut avoir avec ces services, ouais, qui à l'origine n'étaient que du web, quoi.
Et en fait, le commentaire là, c'est que tout le monde aujourd'hui aspire à être une plateforme. Donc, qu'est-ce que ça veut dire être une plateforme? Ça veut dire mettre en place un certain nombre de fonctionnalités dans le cadre d'une API, donc un bout de code que tu peux appeler, de manière à ce que c'est pas uniquement l'utilisateur qui puisse faire réagir à la plateforme, c'est aussi un autre programme qui le fasse. Et donc, aujourd'hui, les grosses plateformes, c'est Facebook, c'est Twitter. Ning est énorme. Enfin, je veux dire, on n'y pense pas, on n'y pense jamais, mais c'est énorme.
Pour que les gens resituent, Ning, c'est pas très populaire en France, mais c'est en fait une sorte de Facebook à faire soi-même. Voilà. C'est-à-dire qu'il est imaginable de faire une sorte de Facebook du rendez-vous tech, c'est-à-dire le Ning du rendez-vous tech, on se dirait. Et ben, vous allez créer votre profil et vous faire des amis dans la communauté du rendez-vous tech, et ça fonctionne comme un réseau social. Bon, c'est pas très populaire en France, mais c'est effectivement assez imposant d'après les chiffres qu'ils nous ont dit aujourd'hui.
Ils en sont quand même à plusieurs milliards de pages vues par mois maintenant. Ouais. Et ils ont 50, 60, 70 millions d'uniques mensuels, donc c'est assez énorme. Et je pense qu'aujourd'hui, tout le monde essaie d'être une plateforme. À ce jour, tu vois, même MySpace aujourd'hui ne qualifie pas encore en tant que plateforme. Ils sont en train d'essayer de le devenir. Et pour moi, en fait, ce qui s'est passé en l'an 2009, ça a été franchement la confirmation du statut plateforme de Facebook, de Twitter et de l'iPhone. Et pourquoi ? Et ben en fait, ça a donné la possibilité à des dizaines de milliers d'applications, ça a donné la possibilité d'atteindre des utilisateurs, de développer des fonctionnalités, d'accéder aux social graphs donc de Facebook et de Twitter d'une façon qui serait autrement pas possible quoi. Et donc ça a permis de développer tout un nouvel écosystème, des milliers de startups aujourd'hui sont basés en fait je veux pas dire sur ces concepts parce que c'est presque ça fait partie si tu veux du livre de recettes du développement de l'application web 2.0 en 2009, c'est j'utilise le système d'identité de Facebook, donc Facebook Connect, je mets à disposition des updates sur Twitter, et si ça a du sens, je développe une application sur l'iPhone de manière à servir mes utilisateurs donc mobiles. Et ça aujourd'hui, c'est quasiment le b.a.-ba.
Et c'est ça qui est marrant au final quand on revoit ce qui s'est passé en 2009, comme tu le disais, c'est qu'on se rend compte finalement, sans s'en être vraiment aperçu, on se réveille aujourd'hui et on se rend compte que les applications, pour parler beaucoup plus simplement, aujourd'hui se passent vraiment sur ces plateformes-là, sur le net, sur Facebook, sur Twitter et ce genre de choses. Et plus forcément sous Windows ou sous macOS. Bon, évidemment, je ne suis pas en train de dire que c'est Les logiciels Windows ou macOS sont sans importance, hein, ça serait inepte de dire ça. Mais là où les choses évoluent et sont vraiment intéressantes, les applications sont sur ces plateformes-là. Et on a très très peu de choses excitantes qui se passent sous Windows en soi-même. Bon, j'exagère, hein, c'est une vision grossie. Hein,
non, mais je souriais à ce que tu disais parce qu'en fait. Le fait que Microsoft n'est pas sur un panel sur les plateformes, c'est absolument incroyable.
Ouais, non, mais c'est ça, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est très significatif, quoi. Donc, bon, ça, c'était un petit peu la vision de ce qui s'est passé en 2009. Si on regarde un petit peu vers l'avenir, moi, la chose que je retiendrai, c'est ce qu'ont dit les participants au panel que tu modérais sur les applications mobiles. Donc, les gens de Tapulous et Social Gaming Networks, SGN, qui disaient, enfin, et il y en avait d'autres, hein, mais ce qu'ils disaient presque à l'unisson, c'était... C'est encore le début. C'est le tout début et on est en train de s'essayer à des formules. On essaye des différents moyens de différents business models, différents moyens de monétiser les applications et on tente les toutes premières choses. Et le meilleur reste à venir. Et surtout, il y a beaucoup de choses qu'on va essayer encore dans les deux ans qui vont venir. Donc, on n'est qu'au tout début encore de ces applications et de ces plateformes.
Oui, c'était le point que j'essayais de. Enfin. J'aime bien en fait dans mes panels, j'aime bien avoir des statistiques parce que ça concrétise vraiment beaucoup de choses. Et donc Sherwin Pechevar, qui est le CEO de SGN, a lancé un simulateur de vol sur iPhone et il a fait $1 million de revenus en 90 jours. Donc il a essayé, tu vois, il a fait un pricing, il a lancé sur l'App Store à 9,99. Ensuite, au bout de 15 jours, il est passé à 7, il a descendu à 1,99. Il a essayé également la vente de virtual goods, puisque tu pouvais acheter ton propre intercepteur pour $2, etc.
Donc, dans le jeu qui est un simulateur de vol, on pouvait acheter ses propres avions en payant un petit supplément dans l'application en elle-même.
Et donc, il a réussi à gagner $1 million en 90 jours sur ce truc. Ce qui est quand même énorme quand tu y penses.
Ah, c'est sûr que c'est assez phénoménal. Et il y avait une statistique qui était intéressante qui donnait, c'est que il disait qu'il avait fait un petit test avec cette vente d'objets dans son application avec trois avions, un à 99 centimes, un à 1,99 et un à $2,99. Et ben contrairement à ce qu'on pourrait attendre, c'est l'avion le plus cher qui s'est le mieux vendu et pas que d'un peu quoi, il représentait 2/3 des ventes. Donc j'imagine que c'était sans doute parce que c'était le meilleur avion qui offrait les meilleures possibilités, mais tout de même quoi, les gens étaient prêts, une fois qu'ils étaient investis dans le jeu, à payer une somme qui était pas qui était conséquente, enfin conséquente.
Oui, et en fait c'est bon, je sais pas en France si vous avez vraiment entendu parler de Zynga, donc est un gros du social gaming, mais c'est une boîte qui fait aujourd'hui des centaines de millions de dollars de revenus après même pas 18 mois, enfin disons 24 mois après son lancement. Et en gros, le trait de génie du CEO de Zynga, Mark Pincus, a été de dire on va faire de la microtransaction, mais c'est pas parce qu'on fait de la microtransaction que ça va être des microprix. Et donc, il a mis dans ses jeux des virtual goods que tu vas acheter pour $10, $15, $20. Et en fait, quand tu arrives à créer une mécanique de jeu qui fait revenir les gens tous les jours, un peu sur les mêmes systèmes de leveling que l'on a dans World of Warcraft, les gens vont dépenser un fric absolument monstrueux. Et ce qu'ils disent en fait, c'est pourquoi avoir un système de souscription où on va se limiter à peut-être $20 par mois de revenus alors qu'on a des gens qui dépensent $200 par mois. Et aujourd'hui, ça, on l'a pas sur le mobile. Donc en fait, on a une espèce de gap aujourd'hui où le monde du mobile, t'as tendance à payer plus. Tu vois, autant je sors très rarement ma carte de crédit sur Internet pour acheter quelque chose, autant j'ai ma carte de crédit dans l'App Store et mon Dieu, qu'est-ce que ça coûte ? Parce que c'est un réflexe assez naturel ou habitué de dire c'est du mobile, je paye, mais on n'a pas encore cette notion de je paye des sommes qui sont énormes tous les 3 jours, etc., de manière à continuer à utiliser le jeu ou l'application et à progresser à l'intérieur du truc. Mais ce qui était assez intéressant, c'est une statistique de Andrew Lacy, donc le CEO de Tapulous, qui disait que 15% des utilisateurs de Tap Revenge 3, donc la dernière version, avaient acheté au minimum donc Tap Revenge est un jeu, c'est Guitar Hero pour l'iPhone, donc c'est orienté sur la musique. 15% des utilisateurs de TR 3 ont payé pour une chanson supplémentaire. Ce qui est très haut, 15% c'est énorme. Et donc je pense parce que
vraiment qu'au début. Généralement c'est donc ce taux de conversion pour sur le net en général c'est quoi entre 5% quand on a de la chance.
Si t'es à 5% t'es bon. Je veux dire 1-2% c'est la moyenne.
Et donc c'est vrai que tout ça, ça donne des possibilités qui sont intéressantes et excitantes pour ce marché, parce que les gens qui viennent et qui jouent à ce genre de jeu et qui vont, mais on parle de jeux, mais c'est pas que des jeux, quoi. C'est toutes sortes de business models qui sont possibles et qui sont des choses nouvelles qui n'existaient pas forcément avant et qui peuvent donner des possibilités qui seront très intéressantes dans les mois et les années à venir. Quoi.
Tu as tout à fait raison. Cela dit. Enfin, je dirais que ce qu'on a vu clairement, c'est que les mécaniques de jeu qui permettent en fait une rétention des utilisateurs qui est très forte, c'est des choses qui ont été, si tu veux, peaufinées dans le monde du jeu pur et qui commencent en fait à bouger en dehors du monde du jeu vers des applications qui sont un peu plus utilitaires. Je ne sais pas si nos auditeurs connaissent Foursquare. C'est lancé Foursquare en France, non ?
Ça vient d'arriver, en fait. Je viens de le downloader. Foursquare, c'est... Comment expliquer ça ? C'est un peu compliqué. Hein. Foursquare, c'est un petit peu une sorte de Twitter, sauf qu'en même temps, il y a une sorte de mécanique de jeu où on va dire, maintenant, je suis à tel endroit, et donc on sign in, on dit, je suis ici, genre, je vais à tel restaurant, je dis, je suis à tel restaurant, et c'est entièrement basé sur la localisation. Et on peut décrocher des badges si on est à tel endroit. Par exemple, si je vais dans tous les McDo de Paris, j'aurai le badge Super McDo Boy, voilà. Par exemple. Et ce genre de mécanique, et ça marche vachement bien. Enfin, aux États-Unis, en tout cas, c'est vrai qu'a priori, on peut se dire « Ah, mais c'est une connerie, pourquoi est-ce que je ferais ça ?» Et ben en fait, ça marche vachement bien.
Et donc cette mécanique de jeu qui est basée sur un fort taux de rétention, ça te force en fait, parce que typiquement, soit tu vas dans un restaurant suivant et puis tu deviens le maire de ce restaurant, donc tu as en fait un badge où c'est en gros ta propriété, c'est un peu comme tu mets ton hôtel en jouant au Monopoly.
Mais c'est un peu ça en fait, c'est une sorte de mix entre Monopoly et Twitter, quoi.
Ouais, tout à fait. Et donc ça c'est un exemple d'une nouvelle génération de service qui n'est pas un jeu, mais qui a des mécaniques de leveling, des mécaniques de rétention de badge qui font que les gens l'utilisent. Enfin, en gros, soit tu fais pas attention à Foursquare, soit tu utilises comme un malade. Quoi. Et je pense que tu vas avoir ces concepts qui vont être appliqués de plus en plus à plein de types de services. Donc c'est là où ces mécaniques qui sont intéressantes avec des virtual goods, etc., vont se déployer bien au-delà des jeux. Moi, le truc, pour revenir, en fait, Foursquare est un super exemple. Pour moi, 2010, ce sera l'année de la location. Donc
de la localisation.
Localisation. Merci Patrick. Donc l'année de la localisation où il y aura énormément de services qui se déclineront avec un concept de localisation de manière à ce qu'on puisse faire de l'hyper local et ça ouvrira là encore énormément d'opportunités.
C'est vrai que on y pense souvent en se disant bon je il se marre sur son faux ami. On y pense souvent et on en parle depuis quelques temps en se disant oui avec l'iPhone je peux savoir quel est le restaurant qui est à côté de moi. Ça c'est la première chose qu'on voit à laquelle on pense quand on pense à localisation. Mais c'est vrai que ce que tu dis c'est qu'il va y avoir d'autres choses qui vont arriver grâce à ce type de possibilités auxquelles on n'a pas encore pensé et qui vont être innovantes et intéressantes. Quoi. En tout cas plus intéressantes que juste il y a un resto juste là.
Ouais. Et c'est là où en fait tu vois full disclosure, j'ai regardé en fait Foursquare en tant qu'investissement potentiel donc au mois de juin juillet l'année dernière cette année et j'ai décidé de pas investir parce qu'en fait je trouvais que cette mécanique de jeu était super intéressante mais que il y avait pas réellement un aspect utilitaire qui faisait que c'était vraiment utile à moi. En gros, c'est je veux être un maire, je veux avoir mes badges, mais à part ça, ça me sert à rien. Et là, en fait, je suis en train de préparer un investissement dans une boîte qui est similaire à Foursquare, mais avec un côté utilitaire qui est vraiment super intéressant. Et je pense que cette boîte va être vraiment, vraiment intéressante.
Bon écoute, tu nous en diras plus quand tu en auras la possibilité.
D'ici quelques mois.
Et d'ici quelques mois. Et puis si jamais on fait une petite update demain, vous aurez sans doute la suite dans la même émission juste maintenant. Et puis sinon, je remercie Jeff et Loïc qui n'est pas avec nous d'être ici pour le web. Et puis merci Jeff donc d'avoir passé ces quelques minutes à discuter de tout ça avec nos auditeurs. Et puis on vous dit à très très vite dans la prochaine émission qui sera dans quelques jours seulement avec Jeff et Yann.
C'est un grand plaisir, on se retrouve donc d'ici une petite semaine quoi.
Exactement, merci à tous, à très vite, ciao.
Save big money now on new siding from LP Smart Side at Menards. Update and beautify your home with your choice of 13 timeless colors of pre-finished engineered siding. It's durable and includes a Sherwin-Williams factory finish paint warranty that means no painting for years to come. View our entire selection of siding from LP Smart Side today. And don't forget to check out our flyer on Menards.com for all the great deals happening now. Save big.